Ouverture ce vendredi de la 37e édition du Festival de musique baroque du Jura. On est avec Sylvain Dionnet, vous êtes le président de l'association. On dit à propos de ce festival qu'il a changé de structure. Que souhaitez-vous nous en dire ?
Il y a eu quelques perturbations internes, on va dire. Je crois qu'il y avait deux orientations qui étaient assez radicalement différentes. Une orientation qui était liée à l'histoire, une association qui était fondée en grande partie sur du bénévolat. Et puis, petit à petit, depuis 2017, il y a eu une évolution vers une certaine professionnalisation au niveau de la programmation, avec l'engagement des directeurs artistiques. Petit à petit, il y a eu une dissension interne qui était liée à une personnalité qui engageait sa propre vision, du festival.
On peut le dire tout de même, qui est celle de Vincent Dumestre, le patron du Poème harmonique.
C'est celle de Vincent Dumestre qui a été justement engagé comme directeur artistique en 2017. Et donc, c'était une vision personnelle. Et c'est évident que par rapport à 32 ans de pratique, de bénévolat et d'autonomie que pouvait avoir l'association, c'était quelque chose qui était vécu comme une vision trop personnelle. Donc là, en l'occurrence, il y a eu effectivement opposition interne entre cette vision très personnelle en termes de projet personnel de Vincent Dumestre et puis une partie de cette association qui avait plutôt une vision d'aménagement du territoire au niveau de l'offre culturelle à partir d'un engagement bénévole. Cet engagement bénévole ne refuse pas du tout une professionnalisation, par exemple, en termes d'administration ou en termes même de conseil artistique. Mais on ne veut pas se lier à un projet personnel, même si c'est une personne de grande valeur.
Alors aujourd'hui, après quelques péripéties, j'y mets des guillemets et je vous cite, où en êtes-vous ?
L'association perdure, donc c'est la 37e édition avec la 37e année de vie de l'association. Et on va faire un festival avec une structure qui est à peu près équivalente à celle qu'on avait eue par le passé. On a réuni d'urgence un conseil artistique pour faire une programmation en très peu de temps. Et donc, quelque part, on est plutôt dans la continuation. Et l'adaptation, bien sûr, mais la continuation.
Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui va durer ?
On a une forte volonté, il y a une mobilisation. À partir du moment où il y avait cette dissension interne, il y a eu une forte mobilisation au niveau du territoire. C'est-à-dire que le Haut-Jura se sentait dépossédé de sa programmation quand la programmation est devenue beaucoup plus importante du côté de Baume-les-Messieurs, du côté de Lons-le-Saunier, du côté, on pourrait dire, du Bas-Jura. À partir de là, nous, la réaction qu'on a eue, c'est-à-dire au niveau de la mobilisation interne des membres de l'association et du territoire, c'était d'avoir une offre culturelle qui effectivement soit plus enrichi au niveau de ce qu'on a comme lieux patrimoniaux ou comme aide au niveau des collectivités locales. Voilà. Donc il y a un recentrage actuel autour du territoire du Haut-Jura. Alors quand on dit Haut-Jura, c'est Haut-Jura au sens large, c'est-à-dire Haut-Jura qui va jusqu'à la frontière sud, bien sûr, qui recouvre en grande partie d'ailleurs le parc naturel, par exemple, ou même le pays du Haut-Jura qui existe, qui a sa propre structure territoriale. On va continuer à avoir une forte dimension de bénévolat. Par contre, on va s'adjoindre effectivement quelques professionnels, qui est une demande d'ailleurs de nos financeurs, pour structurer ou aider à structurer l'offre culturelle dans ce territoire que je viens de mentionner.
Et de belles têtes d'affiche, je pense à William Christie.
On va avoir un concert d'ouverture qui sera autour de la musique Renaissance, et puis on terminera avec une ouverture vers Mozart, puisqu'on aura une fête de l'instrument.
On n'est plus dans le baroque tout de même avec Mozart.
C'est Bach-Mozart, voilà exactement, pour fêter l'orgue de Clairvaux, qui est un orgue exceptionnel, fabriqué par un facteur d'orgue exceptionnel, Bernard Robertin, qui viendra au préalable du concert, qui viendra présenter les caractéristiques de son orgue. Donc ça fait partie des nouveautés, des orientations qu'on veut voir s'installer dans le cadre de l'association et du festival de musique.
Qui en amour tourmente, mi-déjour mon peuple. Sylvain Dionnet, tenons-nous en concert si vous voulez bien pour parcourir rapidement le programme. Donc vous ouvrez ce vendredi avec Obsidienne.
On ouvre ce vendredi avec Obsidienne. Alors il y a quand même une certaine logique par rapport à ce qui était programmé cette année, puisqu'on avait participé à la Journée européenne de musique ancienne les 19 et 20 mars, qui a eu beaucoup de succès, donc le 19 en obat public, avec un concert grand public, présentation des instruments, et concert, ça a duré, il y a eu un concert d'une heure de ce jeune ensemble Into the Wind. Et donc c'était un concert qui mettait en avant la musique Moyen-Âge, on va dire, et Renaissance. Et Emmanuel Bonnardeau et Obsidienne qui fait l'ouverture du concert à Molinche ce vendredi. En fait, c'est dans la continuation de ces concerts qu'on avait donnés les 19 et 20 mars.
Est-ce que c'est une provocation, Sylvain Dionnet, si je vous dis qu'avec le concert de samedi, Les Arts Florissants à Saint-Lupicin, vous jouez la tête d'affiche?
C'est évident que le concert de Saint-Lupicin va jouer la tête d'affiche. C'était quelque chose d'ailleurs qu'on réclamait auprès du directeur artistique. Soyons clairs, on est dans une situation, c'est le Haut-Jura, avec un habitat dispersé, une démographie qui est quand même pas celle qu'on peut avoir à Lonsdale ou même au niveau touristique au mois d'août à Baume-les-Messieurs. Donc il faut quelque chose qui puisse attirer. C'est une tête d'affiche qui va être un point de focalisation sur l'ensemble de la programmation. Donc on a effectivement le samedi à l'église romane de Saint-Lupicin qui a une acoustique absolument remarquable. On va avoir William Christie et les Arts Florissants sont venus déjà 4 fois, donc c'est pas une nouveauté en tant que telle au niveau de l'ensemble, mais c'est évidemment une nouveauté d'avoir ce prestigieux William Christie à la direction de son ensemble. Voilà, c'est vrai que c'est une tête d'affiche.
Et vous êtes dimanche à Saint-Claude en la cathédrale,
et on va retrouve Marco Mencobone, qui est un chef très fougueux et qui nous a fait aussi une offre assez extraordinaire, parce que nous, à la cathédrale, il faut toujours tenir compte de l'acoustique de la cathédrale de Saint-Claude, qui est très particulière. Donc, on a regardé avec Marco Mencobone, et on a regardé qu'est-ce qui pouvait être le plus adapté. Et on a repris un compositeur, enfin, il nous a fait une offre avec un compositeur qui était le maître de Monteverdi. Donc en fait, on se retrouve avec un premier week-end où on ouvre avec une continuité par rapport à mars avec un ensemble qui va faire de la musique renaissance. Puis après, le lendemain, on a Monteverdi avec William Christie. Et puis le lendemain, on est quand même un peu dans l'histoire, hein. Le lendemain, on va avoir un concert avec Marco qui va jouer du Engineer et qui était le maître de Monteverdi. Donc on est effectivement dans des filiations, hein. La thématique générale, c'est confluence. On est dans les différentes voies qui structurent, qui se mêlent et qui conduisent justement à ce qu'on appelle la musique ancienne et baroque. Thank you.
deuxième week-end, donc on est le 24 juin, on est à Moirans en montagne avec un Miserere, mais qui n'est pas celui d'Allegri, qui est celui de Scarlatti.
On a joué la carte d'un jeune ensemble, donc l'escadron volant de la reine, avec une magnifique soprano, et qui va nous donner un Miserere effectivement de Scarlatti. Le fait est que ce deuxième week-end, on voulait le centrer sur la voix. Donc c'est ce qui se passe avec l'église Saint-Nicolas de Moirans en montagne, où on va retrouver quelque chose qui est essentiellement ou en grande partie centré sur la voix.
Est-ce que je peux dire que le samedi vous faites appel au régional de l'étape? Enfin, ils viennent de Besançon, c'est pas très loin.
On n'en a pas parlé, mais c'est vrai aussi qu'on voudrait essayer de faire fructifier les ressources qu'on a au niveau du territoire de Bourgogne-Franche-Comté. C'est ce qu'on a avec Obsidienne, qui est en Bourgogne-Franche-Comté, mais avec l'OPAPA, avec Anthony L'OPAPA, et le cortège d'Orphée, on va effectivement aller encore plus loin presque dans le local, on va dire, qui viennent de Besançon. Et là, ils font une création, ça nous a séduit.
C'est pas un ensemble qui donne l'habitude d'aligner d'énormes masses chorales et un grand orchestre.
Ils ont une configuration qui est très particulière. Cette passion, selon Saint-Jean, il va y avoir 16 chanteurs et 2 orgues positifs. Donc, ça veut dire aussi que ces 16 chanteurs, ils vont se déplacer dans l'église des Cordeliers, à Lons-le-Saunier. Ils vont animer cette église. Et ils entendent animer cette passion selon Saint-Jean au niveau des spectateurs. On a trouvé que c'était un projet.
Donc c'est mis en musique et mis en espace.
C'est mis en musique, exactement, et mis en espace.
Et vous terminez, on avait dit qu'on ne ferait pas tout le programme, et finalement, on ne peut pas passer sous silence certaines étapes, on ne peut surtout pas passer sous silence le dernier concert. On est à Clairvaux-les-Lacs avec Louis-Noël Bastion de Camboula, vous l'avez dit, mais aussi autour d'un instrument, celui de Clairvaux-les-Lacs.
Alors c'est l'orgue, il y a quand même d'autres instruments, mais c'est vrai que c'est l'orgue qui va être mis en valeur et qui va être fêté dans le cadre de ce concert. Alors, Louis-Noël Bastion de Camboula, c'est quand même un très bon organiste claveciniste, donc on table sur quelque chose qu'on sait de très très haute qualité. Et c'est vrai aussi que, comme je le mentionnais tout à l'heure, le fait d'avoir un concert avec une présentation au préalable par le facteur d'orgue, quelque chose d'assez exceptionnel. Bernard Robertin, qui est quand même quelqu'un qui est peut-être pas assez connu dans nos contrées, alors qu'il est mondialement connu comme facteur d'orgue. Quelqu'un qui conçoit des orgues pour l'Orient, pour le Japon par exemple, où il a une très bonne clientèle. Donc je pense que ça c'est aussi important à faire connaître. On revient sur du local aussi, c'est-à-dire on met en valeur des compétences locales et on fait savoir.
Le 37e festival de musique baroque. Alors on dit encore du Jura, mais est-ce qu'on va redire bientôt du Haut Jura?
Ça, c'est une question qu'on est en train de se poser dans le cadre de l'association. Nos interlocuteurs ont été un petit peu bousculés. On est passé le festival de musique du Haut-Jura à un festival de musique baroque du Jura. Et après, il y a eu quelques dissensions internes qu'on a évoquées au début d'entretien. C'est évident qu'il y a un problème sous-jacent d'identité. On voudrait associer quand même quelques caractéristiques qui sont pas seulement musicales au festival. Donc, on a vraiment la volonté, effectivement, de renvoyer quelques images qui sont spécifiques au Jura. Alors, bon, voilà, vous me posez la question. Je pense que ça tourne dans la tête de beaucoup d'interlocuteurs.
Le débat est en cours.
Et ça va être traité dans la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire.
Merci, Monsieur le Président, Sylvain Dionnet. Et on met, bien sûr, les liens sur le site de BFC Classique.